Terre à Terre, le magazine de l'environnement. Nous revenons ce matin sur la zone du testé. Nous avons suivi la transhumance du collectif Faux Pas Pucer, qui se rendait à la manifestation du 25 octobre. Nous sommes restés jusqu'après la mort de Rémi Fraisse.
Toujours la même guerre entre nomades et sédentaires.
Pourquoi ?
Parce que je repensais là, aux histoires de transhumance et tout, et comment on la faisait et tout, et à quel point on était super bien accueillis par les gens chez qui on passait pendant les périodes de transhumance, que les gens étaient vraiment très touchés. Même ça m'est arrivé de voir les brebis manger les fleurs de la gendarmerie avec les gendarmes aux fenêtres qui avaient un sourire jusqu'aux oreilles, quoi. Alors que dans d'autres conditions, ils nous auraient bloqués pour nous contrôler et tout ça. Donc il y a ce côté romantique, quoi, des nomades, quoi, des transhumants. Alors tout ce qui est lié à cet aspect-là, ça touche énormément les gens. Par contre, tout est fait pour leur interdire de se déplacer, comme on a interdit les transhumances à pied dans certains départements de France, sous prétexte de sanitaire, que les troupeaux transportent les maladies et tout ça. Et c'est les agriculteurs sédentaires qui ne supportent pas le passage des troupeaux.
Les agriculteurs particulièrement ?
Les éleveurs sédentaires, complètement parano, au fait que le troupeau transhumant risque de leur amener des maladies et tout ça. Et puis évidemment, après, l'administration, tout ça, qui en profite pour légiférer, pour interdire la transhumance à pied comme en Ardèche, quoi.
Quel effet ça vous fait, du coup, de vous retrouver sur une transhumance ?
L'effet que ça me fait, c'est un immense bonheur de voir le monde de revoir le monde d'un autre point de vue, quoi.
D'être sur... C'est vraiment très différent ?
C'est très différent parce que les drails, les chemins de transhumance, les chemins pour les animaux, en fait, se situent souvent en crête. Donc on a une vue sur le monde qui est totalement différente, qui est hyper dégagée, qu'on voit loin. On a une impression de ne pas être dominé par le monde et tout, mais d'en faire partie, quoi. Ça a complètement changé parce que le problème, c'est que les chemins de transhumance, les drails, ça faisait partie d'un droit ancestral. Et donc les éleveurs, ils avaient le droit de se servir de ces terres et tout.
C'était un droit non écrit ?
C'est un droit qui est... Bon, d'une part, il est immémorial, mais d'autre part, il est quand même dans la mémoire parce que le droit rural en France est constitué en partie du cahier des usages locaux qui sont à présent conservés dans les chambres d'agriculture, mais que personne ne consulte. Mais donc, il y a manière à faire valoir ces droits. Et c'est vrai que ces drails, c'est une emprise sur le territoire qui était intolérable, d'autant que... maintenant, c'est le tout bagnole, le tout goudron, et que très souvent, les voies carrossables en fait, ont annexé des drails.
Elles ont goudronné des drails ?
Oui, elles ont goudronné des drails, sans prendre en compte les us et coutumes qui font partie du droit rural. Donc aujourd'hui, ce n'est pas la bagnole qui est un danger pour la circulation, c'est le troupeau. Donc c'est le troupeau qu'il faut empêcher de se déplacer, en tout cas à pied. À pied, parce que je parle de transhumance à pied. Et après, il y a une grosse mutation qui s'est faite principalement au 19e siècle, c'est que les principales voies de communication, mais depuis la préhistoire, c'est les drails. On repère des drails qui datent de la préhistoire, qui ont structuré les lieux, parce que les chemins de pèlerinage, par exemple, à Compostelle et autres, à l'origine, c'est des drails, c'est des chemins de transhumance de troupeaux. C'était donc souvent des chemins qui se font sur les crêtes, et au 19e siècle, enfin même 18e, mais 19e surtout, le transfert a été fait pour les besoins de l'armée, pour les besoins de contrôle du territoire et tout. Le transport s'est déplacé en fond de vallée. Et là, la vision du monde, elle change complètement. On le voit bien aujourd'hui, là, quand on marche sur un chemin de crête, c'est incroyable le paysage qu'on a devant les yeux et tout ça.
Mais quand vous voyez aujourd'hui... un ou deux troupeaux transhumés, des petites transhumances sur deux jours, ce sont des petites distances, transhumées pour appuyer le collectif qui résiste à l'élaboration d'un barrage. Est-ce que vous avez l'impression de quelque chose en voie de disparition, d'un monde un peu perdu, ou est-ce qu'au contraire, vous avez le sentiment que ce serait peut-être un réveil, un regain ?
Moi, j'ai l'impression d'un monde entre deux.
Ni l'un ni l'autre.
Non, c'est d'un monde vraiment en transition, je ne sais pas vers quoi, mais par contre, où je sais que des pratiques sociales, ancestrales et tout, peuvent être inspiratrices ou porteuses de modes de vie à venir, quoi. Voilà, c'est ça. Bah, c'est vrai que, bon, effectivement, c'est, pour moi, c'est baigné de nostalgie, mais pas dans un sens péjoratif. C'est vraiment la mélancolie d'un monde qui serait tissé de relations, de bonne compagnie entre les gens, les animaux, la nature.
Qu'est-ce qui vient à cette transhumance sur Arpajet ?
C'est surtout des gens du coin et puis leurs amis un peu plus loin.
Vous n'êtes pas vous-même habitué des transhumances, même si vous êtes éleveur ?
Pas trop, ici c'est pas tellement la tradition. Mais quoique récemment, là, il y a des éleveurs qui, pour justement chercher des terres, faire manger leurs bêtes, ont un peu déplacé à droite, à gauche leurs animaux sur des terrains qui étaient peu exploités. Parce qu'en fait, les brebis, c'est la dernière espèce qui peut utiliser des espaces qui ne sont pas des espaces à céréales, des espaces un peu pauvres et tout ça. Et comme il y a de moins en moins de brebis ici, comme partout ailleurs, et eh bien du coup il reste ces espaces là et si les gens ils veulent avoir des brebis et qu'ils n'ont pas de terre, ils peuvent se déplacer un peu comme ça.
C'est d'accès libre?
Pas vraiment, c'est la terre, elle appartient toujours à quelqu'un. Mais il y a des fois des arrangements et puis maintenant c'est encadré de plus en plus par tout ce qui est administration environnementale, à tel point que même il y a des fois on ne peut pas mettre les bêtes sans calendrier, parce que nous on ne sait pas, on est un peu sourds. Du coup on ne sait pas quand c'est qu'on peut faire manger, tout ça. Et donc il faut qu'il y ait des ingénieurs environnementalistes qui viennent nous expliquer la période, le nombre de bêtes à l'hectare, tout ça.
L'administration, elle est jusque sur ce chemin forestier.
On n'est pas hors du monde, personne n'est hors du monde.
Mais là, le but, c'est pas seulement ou pas uniquement de nourrir les bêtes.
Non, là, nous, on marche là pour aller au rassemblement contre le barrage de Sivens, samedi 25. Et nous, on est berger, du coup, on a dit on va y aller. Et puis, on va y aller avec nos brebis, parce que on trouve qu'il y a quand même pas mal de similitudes entre l'administration de nos vies et l'administration des territoires. Et du coup, on a dit, tiens, on va y aller avec nos brebis. Et on va proposer à tous les gens qui trouvent ça plaisant et agréable de venir avec nous. C'est pour ça que là, on se retrouve dans le cul des brebis. On doit être, je sais pas moi, une cinquantaine peut-être, ou peut-être plus, je sais pas.
Et puis il y a deux transhumances.
Et alors, il y a des copains qui font la même chose en venant du sud de Groyer. Et on va se retrouver la veille tout près du site. On va mélanger les troupeaux et on va rentrer sur le site le jour du rassemblement, le 25. Voilà.
Arriva, tu verras, quand il y a tout qui pètera. Arriva, tu verras, là à Fukushima, c'est nous qui habitons là. Et libre, on restera pour combattre l'État qui nique l'atmosphère avec son X éclair. On ne le laissera pas faire, c'est à bure qu'on t'enterre. Tu crois ton monde prospère, mais la terre est vénère. Elle se vengera et ce sera l'enfer. Elle vomira partout des déchets nucléaires jusqu'à la fin du monde.
Le nucléaire, c'est à notre porte. On habite à 50 km de La Hague.
C'est pour ça que c'est une chanson très ressentie.
Voilà, complètement ressentie, avec la trouille au ventre et...
Qui on est ? Nous, on vient de la Manche, on vient du pays le plus nucléarisé. Donc on est anti-nucléaire, on va dire.
Il n'y a pas de nucléaire ici ?
Mais non, mais on est venu soutenir les amis qui se battent contre ce barrage.
Victoria Xardel, Aurélien Berland. Cette seconde émission sur la zone du Testé, la zone humide du Testé, le barrage, s'inscrit dans une série que nous avons intitulée « Territoire sans ménagement ». J'aimerais que vous me parliez de cette notion appliquée à cette portion si petite du territoire. Aurélien Berland.
Alors, en effet, il s'agit d'un projet d'aménagement du territoire. qui se fait en effet sans aucun ménagement, puisque ça consiste tout simplement à détruire, à raser une forêt, à détruire une zone humide, et à en virer les gens qui y vivent, qui ont des usages différents de ceux programmés d'en haut. Ce qu'il faut bien voir à propos de ces projets d'aménagement, on parle souvent de grands projets inutiles et imposés. Moi, j'ai toujours un petit peu un problème avec cette formule qui a eu beaucoup de succès. Maintenant, on parle même des GP2I, je crois, pour en faire un acronyme. Ce serait dommage qu'il n'y ait pas un acronyme, quand même, comme toutes les officines bureaucratiques.
Mais alors, ce qui vous gêne, c'est l'acronyme ou c'est l'expression elle-même ?
Ah non, c'est l'expression, en effet. Non, là, je faisais juste un petit peu d'humour sur la folie française de l'acronyme. C'est quelque chose de très français, l'acronyme. Non, grand projet inutile à imposer. À mon avis, à partir du moment où il y a des grands projets, ils sont forcément imposés. Ils viennent forcément d'en haut et ils viennent forcément contre ceux d'en bas, ceux qui vivent sur place, et ils sont décidés de loin. Les gens sur place, ils ont plein de projets, hein. Ils ont un projet merveilleux parfois. Mais c'est des petits projets où il n'y a pas énormément de financement. Parfois, c'est juste des coups de main avec des amis, des voisins, des gens du coin. Et voilà. Mais les grands projets, bah, ils sont forcément imposés. Et je dirais que dans cette mesure-là, ils sont forcément nuisibles.
Victoria Xardel.
Moi, ce qui me gêne dans cette idée d'aménagement du territoire, c'est l'idée qu'on pourrait... En tout cas, on veut et on pense qu'on peut organiser la nature. Alors que je crois profondément que l'antithèse de la nature, c'est l'organisation. Et en ça, les grands projets, inutiles ou pas, comme les barrages, les chemins de fer, les déchetteries, etc., ils tendent tous vers ça, c'est-à-dire l'idée qu'on va, sur une portion de territoire, créer quelque chose d'utile pour la société et permettre à la nature de servir la société, de s'organiser parce qu'elle est incapable de le faire toute seule. Et l'autre type d'aménagement des territoires qui, pour moi, sont à peu près aussi nuisibles que les premiers, que les aménagements que produit la société industrielle, c'est les aménagements portés par les écologistes, c'est-à-dire tout ce qui tient à la conservation, protection de la nature, réserve naturelle, parc naturel, etc. Parce que c'est toujours la même idée. Dans un cas, on voudrait que la nature serve la société. Dans l'autre cas, on voudrait l'en extraire pour la protéger, pour la sauvegarder, pour la rendre à une virginité, à une sauvagerie souvent fantasmée. Et ces deux types d'aménagement du territoire, ils tendent tous à la même chose. Ils tendent à l'anorganique, à la non-vie. Moi, c'est surtout cette tension-là qui me gêne profondément.
Il me semble, en vous écoutant l'un et l'autre, qu'il y a une question sous-jacente qui est celle de l'échelle, des proportions, de la dose en quelque sorte. Quand vous dites, Victoria Xardel, ce qui me gêne, c'est l'organisation, c'est une tendance, je dirais, contre laquelle on ne peut pas lutter. La tendance, le besoin d'organiser, vous organisez votre table de travail, votre cuisine, votre chambre, enfin, on organise toujours plus ou moins quelque chose. La vraie question, c'est jusqu'à quel point ? Et dans quelle mesure est-ce qu'on organise aussi son jardin ? Il y a ceux qui font un jardin parfaitement taillé, avec une coupe militaire. Il n'y a pas une herbe qui dépasse. Et puis il y en a d'autres qui laissent les choses aller beaucoup plus librement et de manière plus fouillie. Et de fait, on s'aperçoit que ces deux caractères-là ne s'entendent pas. C'est-à-dire qu'il y a... C'est quelque chose de très violent pour les organiseurs de voir un jardin désorganisé, si on reste sur cette image-là. Et c'est quelque chose de risible pour ceux qui ont un jardin désorganisé de voir un jardin trop bien organisé.
Je ne suis pas d'accord avec cette contradiction, parce que comme disait un monsieur qu'on aime beaucoup, le désordre, c'est l'ordre moins le pouvoir. Et la nature, elle est extrêmement organisée. Un jardin, c'est extrêmement organisé. Un ruisseau...
La nature, ce n'est pas le jardin.
C'est vrai. Mais disons, un jardin sauvage, un jardin fouillis, un jardin en permaculture est extrêmement organisé. Simplement, elle est organisée d'une certaine manière qui respecte à la fois le cycle et le vivant et la vie. Et c'est des organisations qui ont un certain rythme, qui ont des défauts, qui prennent du temps aussi, qui ne peuvent pas se maîtriser absolument. Par exemple, pour cette histoire de barrage de Sivens. Donc on dit qu'on va faire un barrage, d'une part pour soutenir l'irrigation de quelques agriculteurs locaux, et d'autre part, pour une question qui est très cruciale aujourd'hui, c'est la question de l'étiage, donc de la dilution des pollutions.
C'est sûr que la gestion, l'aménagement du territoire, la gestion du territoire que l'on conteste, c'est une gestion par en haut qui se fait à une échelle, non pas micro, mais une échelle qu'on pourrait dire macro, Là, en l'occurrence, l'État fait un zonage du territoire en définissant les zones dans lesquelles on va polluer, on va détruire, qu'on va saccager, les zones industrielles, commerciales, artisanales, touristiques, etc., etc. Et puis, en compensation de ce saccage terrible, porté par l'urbanisation, l'agriculture intensive, etc., 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 eh bien, on crée des zones refuges, des niches, pour qu'il y ait quand même un semblant de vie et pour que les gens qui sont pris dans ce monde de zones commerciales, industrielles, artisanales pendant toute leur semaine, puissent aller le dimanche avoir un minimum un contact avec un endroit qui serait un petit peu préservé. Et donc, nous, ce zonage, on le refuse des deux côtés. On refuse le zonage pour l'industrie, pour l'urbanisme, etc. Ça se fait toujours aussi contre les gens qui vivent dans ces zones, qui ne sont pas des zones d'ailleurs, qui sont encore des pays, des régions, des terroirs. Et on essaye de transformer ces pays dans des zones fonctionnelles et utiles dans une comptabilité nationale, dans une comptabilité économique, d'un côté, et dans une comptabilité écologique. Et ces deux gestions, donc économique et écologique, ces deux zonages, ces deux manières d'organiser, c'est toujours basé aussi sur une passion du chiffre. On met tout en chiffres. Il s'agit de rentabiliser, en fait, des petits coins, là, 15 hectares, où on va avoir plus de 94 espèces protégées, plus de tant de plantes bio-indicatrices, etc., etc. C'est une parodie, en fait, de la gestion étatique et économique, mais appliquée à la nature, cette fois, et non pas à l'industrie. Et ça, moi, il y a quelque chose qui me dérange profondément là-dedans, c'est vraiment un rapport au monde, c'est un rapport à la vie. Et moi, mon rapport à la nature, aux animaux, etc., il ne va pas dans le chiffre. Et même s'il n'y avait pas d'espèces à protéger à l'intérieur de cet endroit-là, je ne voudrais pas que cette portion de territoire soit mise au service des logiques industrielles qui ont défiguré tout le reste du territoire.
Victoria Xardel ?
Oui, il y a un problème de langage. Que ce soit de langage par le chiffre ou de langage par qu'a créé effectivement l'écologie politique avec le zonage du territoire. Aujourd'hui, même lorsqu'on cherche à défendre ce territoire, on ne sait plus parler autrement qu'avec ce vocabulaire-là. On dit une zone humide, mais une zone humide, on n'en a rien à foutre. Une zone humide, ça n'a aucune réalité. Et le langage, moi, je pense profondément qu'il crée une réalité. Et je crois que si on veut réellement défendre aujourd'hui une forêt, ben, il faut parler avec des mots simples. Une zone humide, qu'est-ce que c'est ? Une zone humide, c'est un endroit où les plantes et les animaux vivent principalement grâce à l'eau. Et c'est un endroit où il y a des marécages, où il y a de la boue, ça pue, il y a des animaux, des plantes. Je pense qu'il faut vraiment essayer de retrouver un langage simple et juste qui désigne des faits concrets.
La bataille de Sivens, ce qui a déclenché la lutte, c'est un argumentaire de type de gestion, de bons gestionnaires de la nature, qui sont incarnés par le collectif Sauvegarde du Testé, qui a fait un travail exceptionnel à la fois de contestation du dossier argument après argument.
De décryptage, déjà.
De décryptage, d'argumentation, de contestation. Et puis, qui a, en effet, permis à ce qu'une lutte décolle. Mais cette lutte-là, actuellement, elle a décollé et elle se fait en même temps, c'est un petit peu étonnant, sur d'autres arguments que ceux du collectif Sauvegarde du Testé. Tout simplement parce qu'à l'heure actuelle, il faut voir, la zone humide, elle est dévastée. La forêt, elle est déboisée. Il n'y a plus rien. Il y a les 40 hectares que l'on voulait préserver, que le collectif dont je parle voulait sauvegarder, c'est fini. Pourtant, ils continuent à se battre et nous continuons à nous battre. C'est donc qu'il y a, au-delà de la sauvegarde de ce territoire, de ces espèces, etc., il y a autre chose qui nous meut. Et ça, par timidité, par volonté de calquer sur le langage dominant, le langage journaliste, médiatique, politique, gestionnaire, etc., ça, on n'arrive même pas à le dire aujourd'hui. Et pour nous, c'est un vrai problème. Pour nous, c'est un vrai problème parce que là, il y a une lutte qui continue, qui prend de l'ampleur, une ampleur que je pense que le collectif du Testé n'aurait pas imaginé, que personne ne pouvait imaginer il n'y a ne serait-ce que quelques mois, alors que finalement, on nous a coupé l'herbe sous les pieds. Mais c'est qu'il y a autre chose qui se joue. Il y a un autre rapport au monde, etc. Et celui-là, on essaye de creuser cette question-là pour savoir justement contre quoi on se bat et pourquoi on se bat. Et bon, bah, ça c'est délicat parce que c'est tout un travail où il faut s'extraire de l'imaginaire dominant, du discours dominant, et être capable d'affirmer des choses très simples. Ce qui nous intéresse plus au Testé que la zone humide, c'est les bouilles.
Les bouilles ?
Les Bouilles, c'est quoi? Donc, c'est l'autre collectif qui incarne plutôt la frange des occupants et qui ne se disent pas légalistes, contrairement au collectif Sauvegarde du Testé.
C'est donc le collectif Tant qu'il y aura des Bouilles?
Voilà, c'est ça, Tant qu'il y aura des Bouilles. Pourquoi ce nom-là? Tout simplement parce qu'il y a un an, quelques personnes étaient allées à la mairie de Gaillac pour regarder le cadastre, se rendre compte d'un certain nombre de choses sur la zone humide du Testé. Et là, une secrétaire de mairie, un petit peu irritée, mais qui connaît très bien sa région, leur a dit mais pourquoi vous nous faites tout un fromage pour des Boolias? Les Boolias, c'est quoi? Des Bouilles? Les Bouilles, c'est quoi? Ça veut dire, dans le parler paysan local, c'est des terres sans grande valeur, parce que justement, on ne peut pas y laisser paître les troupeaux aussi longtemps que les autres. Elles sont moins productives parce que trop spongieuses, inutilisables une partie de l'année. Bref, c'est des terres pauvres, des terres sans grande valeur, des mauvaises terres sur lesquelles pousse aussi la mauvaise herbe. Et bien ça nous intéresse. Des terres inexploitées, des terres sans emploi.
Et inexploitables.
Et inexploitables peut-être, enfin en tous les cas d'une manière paysanne, mais d'une manière industrielle, on peut toujours en faire quelque chose.
Aujourd'hui, Victoria Exardel, Aurélien Berland, vous avez décidé de faire un journal de ces journées de fin octobre.
Oui, on a décidé de faire un journal qui sera quotidien pendant 7 jours. Le premier numéro va donc sortir le samedi 25, jour du rassemblement. Et le dernier numéro paraîtra le 1er novembre. C'est un journal qui porte un titre qui moi m'amuse, parce que dans le langage, dans le jargon technique, dans le jargon des ingénieurs, on ne parle pas d'un barrage, peut-être est-ce un mot un peu violent, un peu cru, on dit une retenue d'eau. Et donc le journal va s'appeler sans aucune retenue. Voilà, et c'est un journal qu'on a décidé de faire justement pour mettre en texte les questions qu'on se pose, tant par rapport à ce langage, par rapport à la question du langage, à cette tension qui nous semble décelée entre les stratégies écologiques et les stratégies économiques, mais aussi par rapport à des choses qui sont plus précises, à la lutte même, c'est-à-dire la question de la violence, qui est une question extrêmement brûlante dès lors qu'il y a une bataille à mener. Et on le voit bien à Sivens, c'est difficile de donner des noms aux différentes tendances qui s'affrontent. Mais à Sivens, il y a des gens qui refusent totalement l'usage de la violence, donc guérilla, etc. Et il y en a d'autres qui sont plus radicaux sur ce sujet-là, ou qui pensent que c'est une composante essentielle de la bataille. Voilà, donc c'est une revue qu'on a décidé de faire pour poser les questions qui nous fâchent, en tout cas, entre nous et avec d'autres.
Avec l'espoir de pouvoir en discuter plus largement avec l'ensemble des participants?
Oui, là, il faut voir que, compte tenu de l'intensité de la lutte, voilà, les discussions, les débats, les oppositions se font sur des points purement techniques. Où est-ce qu'on gare les voitures? Comment on s'organise pour ci, pour ça, etc. Est-ce qu'on met de la musique fort ou pas fort? Ce sont ces questions-là qui sont des questions importantes. Hein, quand on organise un rassemblement avec un appel national et même international, tout ça, il faut les résoudre. Mais j'ai l'impression que du coup, les débats de fond sont un petit peu toujours remis à plus tard ou remis à un autre lieu que le lieu de l'Assemblée Générale et de la discussion collective. Remis à des discussions en petits groupes, etc., où on se retrouve souvent dans un entre-soi assez commode et où, donc finalement, nos différents préjugés, moi aussi j'en ai, hein, bien sûr, on se les renforce plutôt qu'on est capable de les remettre en question, de les réfléchir et de penser l'articulation. Et du coup, ça fait quoi? Ça fait que, en fait, on se bat avec plein de gens sans avoir forcément ni les mêmes objectifs, ni les mêmes idées, ni les mêmes méthodes. Et du coup, il y a plein de conflits sur des points techniques qui ressortent du fait qu'en fait, on ne sait pas jusqu'où on peut faire avec les autres et à partir de quel moment on n'a pas envie de faire avec les autres parce qu'on n'a pas justement les mêmes méthodes, les mêmes idéaux, les mêmes pratiques. Et du coup, ça rend le processus, disons l'organisation technique d'un tel événement, encore plus pesante. Parce qu'en fait, ces questions ne sont pas non pas résolues, mais ces questions n'étant pas discutées, on ne sait pas jusqu'à quel point on peut faire avec. Et donc, ce qu'il y a à faire ensemble. Et voilà. Donc moi, je pense que c'est très important de réussir à parler de ces questions, de réussir à faire discuter les gens autour de ça, et d'essayer de sortir un petit peu de composantes qui sont arrivées, qui étaient déjà définies telles quelles, légalistes, pacifistes, je ne sais quoi, etc., et de faire se mélanger tout ça, parce que de fait, c'est ce qui se passe en réalité dans ce mouvement. Et c'est ça qui est beau jusqu'à présent. Par exemple, le rassemblement du 25 octobre, il a été organisé par une coordination qui regroupe, il y a des personnes du collectif Testé qui co-organisent, des gens de la ZAD, beaucoup de gens de la population locale qui a trouvé par ce moyen-là l'occasion en fait, de s'investir dans un mouvement dans lequel les gens ne trouvaient pas leur place. Parce que pour beaucoup de gens locaux, aussi bien la ZAD qu'un argumentaire purement écologiste, ça ne leur parle pas, ça leur parle pas de leur vie, de leur rapport à ce territoire, de leur rapport à cette forêt. Et donc, pour toutes ces raisons, moi, je pense que c'est important d'essayer de faire émerger ces questions-là, qu'elles soient discutées, pour que l'on sache exactement jusqu'où on peut aller ensemble, là où on n'a pas à essayer de se solliciter les uns les autres, et être capable, par exemple, comme dans le Val de Suse et dans d'autres luttes assez exemplaires de ce point de vue-là, de faire front commun, sans se dissocier, sans se montrer du doigt quand il y a des dérapages, etc., de rappeler juste... Nous avons un ennemi commun qui utilise contre nous des armes et des méthodes absolument répugnantes, à la fois la violence, l'intimidation, la menace, l'humiliation. C'est absolument... Enfin, c'est pas incroyable, parce que ça se passe partout dans le monde, ça. Mais quand on y est confronté au pas de sa porte, c'est quand même... on est obligé de réagir. Et à un moment donné, ben voilà, et il faut faire quelque chose contre ça.
Au moment où vous avez dit faire front commun... J'étais en train de penser, retrouver du lieu commun. Victoria Xardel ?
Nous habitons ici. Ces forêts sont des endroits où nous nous promenons, où nous cueillons des champignons, où nous grimpons aux arbres, où les enfants des écoles font leur premier apprentissage de la nature. On les emmène pour observer la faune et la flore sauvage. Et c'est vrai que ce mouvement-là, il s'oppose évidemment à cette chose-là, c'est-à-dire à la soustraction d'un lieu commun. Un lieu qui est commun à tous les habitants de la région et à leurs usages vernaculaires, non lucratifs, lents. Et cette chose-là, elle est effectivement fondamentale. Et c'est un processus qui s'abat sur nous de toutes parts et dans toutes les régions de France, cette opération de soustraction. Donc effectivement, garder des lieux communs qui n'appartiennent à personne, donc au sens des choses communes, c'est-à-dire des choses dont on est tous, non pas propriétaires, mais usagers. Ça, c'est fondamental.
Ils sont tranquilles, là.
Là, ça y est, elles en ont plein les pattes. Elles commencent à en avoir plein le ventre. Elles commencent à se coucher, donc on va les mettre dans les filets avant qu'elles se couchent toutes, là, parce qu'elles vont y rester un moment et ça va nous donner l'occasion d'aller boire l'apéro et de discuter de tout ça.
Trois bergers, c'est classe, hein?
Ah, c'est grand luxe. En plus, avec le beau temps, le soleil couchant. Là, on devrait faire des photos et pour les magazines de pub, pour recruter des bergers, en fait. Maintenant ou au printemps, c'est le summum du berger, tu vois. C'est comme quand tu as planté un arbre, que tu l'as cultivé et tout. Au moment où tu récoltes, c'est magique, en fait. Et bien là, c'est exactement ça.
La récolte des brebis, qu'est-ce que c'est ? C'est... leur plaisir à être ?
Ben, la récolte, c'est tous les jours, c'est ça, ouais, c'est l'impression de faire partie de quelque chose, quoi. Il y a des gens qui disent, comme un chef d'orchestre, je ne sais pas si je dirais ça, moi.
En tout cas, c'est ce moment du soir, le moment où il y a une espèce de paix qui arrive.
C'est ça. En fait, c'est les animaux l'expriment bien, parce que là, on sent qu'ils ont le ventre plein et ils savourent quelque chose, quoi. Et ça, ils doivent dégager, je ne sais pas si c'est des hormones ou quelque chose comme ça. Et ça, nous, on le ressent aussi, du coup, et on a cette espèce de plénitude, quoi.
Avec aussi le sentiment d'y avoir participé.
Eh bien, voilà. C'est ça.
Avoir contribué, quoi.
Ouais, je pense que peut-être que les restaurateurs, ils ont quelque part ce truc-là aussi, ouais. Nous, le menu est moins complexe, mais... Mais le plaisir, c'est un peu de cet ordre-là.
Alors, nous voilà au matin du samedi et vous vous apprêtez à faire la dernière étape de la transhumance qui aura duré 2 jours. Il y a eu 2 transhumances, en fait, une qui venait du nord du département, une autre du sud. Et comment et pourquoi est-ce que vous, qui faites tous partie du collectif Faut pas pucer, on s'est déjà rencontrés à Terre à Terre, pourquoi est-ce que vous avez associé votre lutte à celle qui, aujourd'hui, rassemble beaucoup de monde sur la zone humide du Testé ?
Moi, mon sentiment, c'est la dépossession. C'est que là, il y a un territoire dont des gens ont décidé quelque chose, peu importe, et ils se l'approprient. Et nous, dans les troupeaux, c'est un petit peu le même sentiment qu'on a. Nous s'approprient nos troupeaux par leurs normes, par des décisions comme le puçage électronique qu'ils imposent. Voilà. Et je pense qu'il y a plein de gens aussi qui suivent parce que dans leur boulot, ils se sentent dépossédés. C'est le sentiment que j'ai qui me semble être le lien entre tout ce monde.
Et en fait, justement, ce qui est frappant, c'est que ça fait un lien. En effet, alors que ce sont des situations a priori différentes, mais vous sentez cette communauté, cette parenté entre les uns et les autres.
On se sent concerné par les gestionnaires un peu de la même façon. Qu'on ait la maîtrise aujourd'hui d'un troupeau ou bien qu'on habite quelque part, ce troupeau ou bien ce quelque part subissent des injonctions de gestionnaires. Et les gens qui nous accompagnent ressentent ça là où ils sont, dans à peu près tous les métiers qu'ils exercent, quoi. Ils sont assez variés sur les gens qui nous accompagnent.
Par exemple ?
Il y a des instituteurs, il y a des infirmiers, il y a des docteurs, des imprimeurs, un plombier, plus en plus de chômeurs, oui. Mais la gestion...
Qui se sentent aussi...
Gérés.
Gérés.
Voilà.
Vous-même, vous avez eu à pâtir dans votre troupeau de ces histoires de gestion ?
On n'a pas eu droit à la répression policière, mais on a eu ce qu'on appelle la répression administrative et financière. C'est-à-dire qu'on a eu des pénalités et puis des interdictions de mouvement.
Est-ce que vous refusiez de mettre une puce électronique à l'oreille de vos brebis ?
Exactement, on refuse de considérer nos brebis comme des barils de lessive.
Aujourd'hui, où en êtes-vous ?
On continue à refuser et il y a de plus en plus de gens qui comprennent notre situation et qui nous soutiennent, notamment financièrement, puisqu'on a eu des grosses pénalités. Et du coup, ça nous permet de continuer cette lutte et avec beaucoup d'entrain.
Ce qui est très frappant, c'est l'emprise que ces projets-là ont sur le territoire et la façon dont ils affectent et dont ils détruisent les territoires. Pour vous qui êtes des arpenteurs de ces territoires, qu'est-ce que vous pourriez avoir à dire là-dessus ?
Le paysan, s'il en reste, et même l'exploitant agricole, c'est une activité, je ne sais pas s'il y en a d'autres, qui s'exprime sur de l'espace. Et donc forcément, il peut y avoir très peu de paysans. Mais bon, on le sait très vite, s'il y a des haies, s'il n'y en a pas, si c'est bousillé, si ce n'est pas bousillé. Donc nous, on est des aménageurs de territoire, quoi, ou des déménageurs. En tout cas, la nature, ça fait longtemps qu'elle n'existe plus à l'état brut. Et donc, on peut l'accompagner, on peut l'enrichir, ou on peut la détruire. Mais voilà, nous on est là-dedans et c'est pour ça que cette histoire de tester, il y a eu pas mal d'endroits où il y a eu des pelles mécaniques pour faire des rassemblements et c'est pas fini. Et quand il y a eu cette histoire de rassemblement, ben, nous on n'a pas calculé. C'était évident qu'il fallait y aller avec les brebis. Parce que Amenostrofeda, ce n'est pas des moutonnalios. Ça veut dire qu'avec nos brebis, on n'est pas des troupeaux de moutons. C'est aussi parce qu'on fait ce métier-là. Et cette activité, parce que je ne sais même plus si c'est un métier, que ça nous rappelle aussi à tout ça, à l'espace, à ce que c'est la nature, à ce que c'est le vivant, ce que c'est la mort, ce que c'est des fois, ce que c'est un peu les choses moins agréables, la maladie, tout ça. Ça nous paraissait évident d'aller là-bas avec les bêtes, parce que pour nous, c'est la même chose.
Oui, puis c'est un rapport à la nature hyper autoritaire, et je trouve que c'est ce qu'on ressent un petit peu partout, cette façon de justement gérer. Zone humide ici, ben non, finalement je fais un lac, je la mets là-bas avec les grenouilles qui vont avec. Et toi, ton mouton, il fera bip-bip à l'abattoir et il sera dans l'ordinateur. Enfin, une façon comme ça de tout penser, de tout faire autoritairement. Et la nature, elle n'est plus respectée, elle est juste anéantie. Nous, bien sûr qu'on ne la laisse pas telle qu'elle quand on est paysan, mais on ne fait pas de la destruction. Elle se reconnaît après qu'on soit passé normalement, enfin, qu'on pose avec elle.
Il y a plein de milieux où l'intervention d'une agriculture respectueuse, elle augmente la biodiversité parce qu'elle crée des milieux très différents, donc des haies, des champs, des bois, tout ça. Et du coup, il y a beaucoup plus de biodiversité qui existe et qui sert aussi celui qui utilise les terrains, quoi.
Je ne sais même pas si ce n'est pas dangereux pour nous d'utiliser le mot biodiversité parce qu'on ne s'en sert pas dans notre quotidien, c'est un truc technocratique. Et simplement, dans notre souci de faire au mieux avec ce qu'on a sous la main, c'est pour nous une évidence qu'une brebis, il faut qu'elle mange des dizaines de plantes différentes pour être en bonne santé. Nous, c'est pareil, on ne peut pas se nourrir de steak frites. Et si on a des gros problèmes de maladie, c'est parce que la nourriture s'appauvrit lamentablement. Et moi, ce qui me touche le plus à chaque transhumance, ce que j'ai l'occasion de faire, c'est justement la violence du paysage. La violence du paysage moderne. C'est-à-dire que quand on sort de nos endroits où il y a encore une vie vraiment qui... les gens s'en rendent compte quand ils viennent nous voir. Ils disent c'est beau chez vous, il y a des haies, c'est varié, il y a de... Bon, bien sûr, traverser une grosse route avec des gens que ça énerve de se retarder 2 minutes, c'est déjà une violence, mais de traverser un paysage modifié par l'agriculture industrielle, souvent on a été obligé de faire courir nos brebis pour pas qu'elles s'empoisonnent si elles mangeaient de l'herbe de cette agriculture-là.
Là, en traversant le Tarn.
Oui, notamment dans la vallée du Tarn, c'est quelque chose d'impressionnant. On se croirait un peu dans un mélange de zones commerciales, quelque chose de vraiment périurbain, avec tous les bruits qui vont avec. Il n'y a plus de fermes, il n'y a plus que des espèces de colcoses. C'est un paysage de plus en plus soviétique, en fait.
Par rapport à ça, il faudra aussi qu'on discute avec pas mal de naturalistes, parce que pour venir tester, c'est eux qui ont allumé la mèche, qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui on est là, et ça c'est quand même très important. Et il y a une partie aussi des naturalistes qui contestent les compensations, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément... en tout cas, ils n'affichent pas clairement leur refus du barrage. Par contre, ils peuvent être même jusqu'à être outrés, parce que les surfaces de compensation ne sont pas assez grandes ou pas assez... Donc, peu importe la destruction d'un paysage, il suffit que celui qu'on refait en plastique soit mieux que le premier. Et donc ça, il faut qu'on discute avec eux, parce que nous, on ne voit pas ça comme ça, quoi.
La notion même de compensation, elle est tellement étrange.
Ben oui, surtout, alors peut-être pour des petits endroits, je ne sais pas, nous, ça nous arrive peut-être aussi, mais là, c'est des surfaces énormes, enfin, c'est des dizaines d'hectares, et on ne peut pas simplement se soustraire parce que la surface de compensation, elle n'est pas assez grande ou pas assez bien faite. Ce n'est pas possible.
Je voudrais ajouter que pour avoir participé à plusieurs journées d'occupation du site des travaux, j'ai été impressionné par la démesure des moyens mis en œuvre. Et je suis vraiment choqué que des gens croient encore que, puisque ce sont des entreprises qui sont dans le Tarn, ce sont des entreprises locales. Ce n'est pas possible d'appeler ça des entreprises locales.
Est-ce que vous pourriez nous décrire ces moyens dont vous parlez ?
C'est des machines énormes qui avalent la forêt à une vitesse vertigineuse, donc qui ont besoin d'un terrain d'action sur plusieurs départements, voire sur plusieurs régions, peut-être à l'international.
Ce sont ces machines qui cueillent un arbre et qui le broient immédiatement, c'est ça ?
Alors soit ce sont ces machines-là, soit c'est des broyeurs qui mettent tout ce qui est devant eux en copeaux. C'est des machines, par exemple, si elles tombent en panne, elles ne vont pas se faire réparer, peut-être même pas à Albi, mais au moins à Toulouse. Et puis les produits qui sortent de là, ils vont partir. Bon, on sait qu'il y a des copeaux qui vont chauffer Airbus à Toulouse, mais il y en a peut-être qui vont aller aussi à Barcelone. C'est des entreprises qui ne concernent personne ici. C'est-à-dire que si quelqu'un a besoin d'irriguer sa ferme, il va faire travailler quelqu'un de chez lui qui a un tractopelle ou un petit bulle. Il va lui faire son truc. Le gars qui a ses moyens, quand il tombe en panne, il va aller voir le mécano du village. Ça va maintenir une économie. Mais là ça dépossède, au contraire, l'endroit où on habite. Ça le vide, quoi. Comme une zone commerciale détruit tout autour d'elle, quoi.
Sur la puissance des machines, c'est ça qu'il y a de commun entre le puçage, qui est une puissance de l'électronique qui se met au service du contrôle des éleveurs, et la puissance des machines là, qui coupaient les arbres et qui faisaient le travail. On s'aperçoit que vraiment, là, la technique en est à un stade où... d'ailleurs, on se demande, même le technicien qui dirige un peu les manœuvres ne contrôle pas du tout l'ensemble. C'est un processus maintenant qui est en branle et qui se crée tout seul, en fait. Et c'est assez affolant de voir ça. C'est-à-dire qu'on se demande qui contrôle cette évolution-là.
Ce chantier de déforestation, c'est un petit peu ce qui se passe de plus en plus. C'est-à-dire que comme c'est trop compliqué de mettre une bûche dans une chaudière et que ça ne peut pas s'automatiser, on broie tout, des arbres entiers. Et on fait des plaquettes qui servent de base au chauffage ou à faire des granulés. C'est très propre, on automatise et tout ça. Mais on dépossède, c'est-à-dire que tu ne peux plus faire ton bois toi-même. Tu ne peux plus recevoir ton bois et le couper en petits bouts pour le mettre en ton poêle. Et si jamais la chaudière, qui est très compliquée, est en panne, c'est marrant, tu ne mettras pas de bûche dedans. C'est comme du gasoil.
Et si Jérémy, le marchand de plaquettes, il décide de te vendre ça, pas possible, eh bien, tu achèteras ça, pas possible. C'est-à-dire que tu ne peux plus toi-même gérer correctement, enfin gérer, utiliser correctement un bois ou une forêt et te chauffer avec et faire des choses avec. Ça, c'est plus possible. Il faut que ça passe par l'entremise d'un procédé industriel qui peut faire quelque chose qui ressemble à une automatisation, un flux, comme la plaquette, ça devient un flux, parce que la bûche, ça ne peut pas se transporter, s'automatiser. Et ça, ça nous rend de plus en plus dépendants. Et c'est la même chose qui nous arrive dans nos élevages avec toutes les normes administratives. Sous prétexte de ne pas avoir d'abus, de ceci, cela, on prive les gens de liberté. Est-ce qu'on peut imaginer un monde où le mieux, ça serait qu'il y ait de moins en moins de liberté et de plus en plus de normes, sous prétexte d'abus? Voilà. Je ne suis pas sûr que ça soit vivable.
Camille, vous êtes venue vous installer ici au Testé depuis combien de temps ?
Donc je suis au Testé depuis l'automne 2013. Je suis venu comme pour voir ce qui se passait ici. Je venais de Notre-Dame-des-Landes et je me suis dit que j'allais passer quelques jours ou une semaine pour voir comment ça se passe. Et ça fait bientôt un an, j'y suis encore.
Ici on est au milieu des bois, on est dans un pré, il n'y a pas de culture, il n'y a pas... Il n'y a pas d'eau nécessairement, même si on est sur une zone humide.
Si, si, il y a de l'eau, il y a une source. Ici à la Métairie, il y a une source qui est très bonne d'ailleurs. En tout cas, selon mes analyses personnelles.
Pour le ravitaillement pour...
Donc le ravitaillement, il y a pas mal de gens du coin qui nous soutiennent, qui nous apportent à manger. Notamment, il y a des maraîchers bio qui nous donnent des légumes. Dans les périodes... les plus plates, c'est mon RSA qui servait à nourrir moi et les quelques copains qui étions là. RSA, donc le revenu de soutien à l'activisme. Et heureusement qu'il est là. Parfois, il faut le partager en 5, 6, mais il est bien utile.
Vous-même, vous êtes non-violent ?
Oui, moi, je suis radicalement non-violent. Pacifiste, j'aime bien le mot pacifiste. Donc, il vient du mot paix en latin. Et qu'il ne faut surtout pas confondre avec l'adjectif passif, puisque ce n'est pas du tout la même racine latine. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui pensent que le pacifisme, c'est la même racine que passif. Et pas du tout, on peut être activiste, pacifiste.
On peut sûrement, mais ici c'est difficile, il y a eu énormément de violence contre les zadistes.
Oui, il y a eu énormément de violence. Et il faut prendre sur soi en fait, c'est dur. Et j'ai pas forcément la recette miracle. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le fait d'y être, le fait de se faire piller, de se faire brûler ses affaires personnelles par les flics, de se faire tabasser...
Vous avez été confronté à ça vous-même, Camille ?
Oui, bien sûr. Et je suis loin d'être le seul. J'ai été confronté à ça. Et ça aide à prendre du recul sur les choses. Hein. Donc... On avait envie de remercier la préfecture de nous aider à nous défaire de nos attachements matériels. Ça nous aide à nous élever spirituellement.
Mais là, vous blaguez.
Oui, là, je blague. Mais vraiment, ça aide vraiment à prendre du recul sur les choses. Que quand on n'a plus d'affaires, on voit les choses vraiment différemment.
Aurélien Berland, Victoria Xardel, il y a maintenant une question dont il faut parler, qui est extrêmement complexe, c'est la question de la violence. La violence qui a fait irruption dans ces journées, la violence qui n'était pas au programme, si ce n'est qu'elle était là, très présente, déjà dans l'arrivée sur le site de cette ZAD, cette zone à défendre, lorsqu'on découvre la dévastation du paysage. C'est quelque chose d'extrêmement violent. Et puis il y a eu les violences répétées pendant tout le mois de septembre, à la fois les violences policières et les violences des milices locales contre les manifestants, contre ceux qui s'opposaient à ce projet de barrage. Ce sont des violences qui sont allées extrêmement loin. Et puis évidemment, il y a eu cet acte de violence ultime. La mort de ce jeune Rémi Fraisse. Vous avez écrit ce jour-là, dans ce petit journal que vous publiez, sans aucune retenue, vous avez publié un texte intitulé « Après les arbres, ils abattent des hommes ». Victoria Exardel.
Je crois qu'il y a une logique de destruction qui fait fi, finalement, de tout ce qui est vivant, que ce soit des arbres, que ce soit les hommes. Il y a un objectif, c'est de réaliser une infrastructure motivée par des objectifs économiques qui nous dépassent, qui dépassent tout ce qui est humain, tout ce qui est vivant. Et pour le réaliser, on est prêt à abattre des arbres, certes, mais on est prêt aussi à abattre un homme. D'ailleurs, les déclarations de Thierry Carcenac sont édifiantes à ce sujet, parce qu'aujourd'hui...
Thierry Carcenac, c'est donc le président du Conseil général.
Conseil général du Tarn, qui après, disons, la salve médiatique qu'a suscité la mort de Rémy, qui a déclaré qu'effectivement, peut-être, il s'était trompé sur ce barrage, que c'était un barrage qui n'avait pas lieu d'être, mais que de toute façon, il ne pouvait plus reculer. Les sommes engagées sont trop élevées pour indemniser les entreprises qui ont pris part déjà à la construction, à la dévastation de la forêt. Les indemnités qu'il faudrait leur verser sont beaucoup trop élevées. On ne peut pas revenir en arrière pour des raisons économiques.
Aurélien Berland.
Je voudrais ajouter que cette phrase de Carcenac, qui est aussi finalement la conclusion des experts de Ségolène Royal, qui disent aussi en substance la même chose, ben, en réalité, c'est, je ne sais pas comment le qualifier, mais finalement, c'est la devise de notre époque. C'est on va trop loin, on le sait, mais il faut aller de l'avant, encore plus loin, encore plus vite. Et on ne s'arrêtera jamais. On retrouve en fait dans cette phrase-là tout l'impératif de croissance infinie, l'impératif de développement jusqu'à la nausée, jusqu'à la mort, jusqu'à l'étouffement de toute vie, peut-être sur Terre un jour. Et pour moi, en fait, c'est frappant parce qu'en fait, dans cette petite histoire de Sivens, qui n'était pas appelé à prendre une telle ampleur, eh ben, on retrouve tout. On retrouve la corruption des élites, on retrouve le rôle des syndicats productivistes comme la FNSEA, on retrouve la dévastation de la nature. Et puis on retrouve cette logique de la fuite en avant qui gouverne finalement nos sociétés et qui les pousse droit dans le mur.
À cela répond, du côté des opposants au barrage, la difficulté à voir la violence, les appels répétés, incessants, à la non-violence, au pacifisme.
C'est vrai qu'aujourd'hui, au sein même de l'opposition au barrage, il y a un clivage très fort qui se déclare entre ceux qui se disent non-violents dans leur méthode de lutte et ceux qui pensent qu'il est possible, en tout cas il est souhaitable peut-être, de faire reculer les policiers, les forces de l'ordre avec des cailloux ou d'autres armes. C'est un clivage qui nous paraît extrêmement ambigu parce qu'on sait très bien qu'on peut être radical et pacifiste, on sait très bien qu'on peut être résistant et non violent, on sait très bien aussi que le vrai guerrier n'est pas belliqueux. Mais c'est une question qui se pose sans cesse, et depuis la mort de Rémy, elle se pose d'une façon encore plus crue. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a quand même une très grande confusion sur ce que c'est la violence, sur ce que c'est le mot violence. Finalement, jusqu'à une époque pas si lointaine que ça, on désignait sous le vocable de violent des actes qui détruisaient des hommes mais non pas des choses, c'est-à-dire était considéré comme violent une attaque physique sur une personne et pas la destruction par exemple d'une machine. Aujourd'hui il y a une sorte de grand amalgame, de grande confusion de ce mot-là. C'est compliqué, c'est compliqué parce qu'on a aussi le sentiment que la question de la stratégie, c'est-à-dire on peut avoir des idées d'action directe, d'action qu'on pourrait qualifier de violentes, qui s'inscrivent stratégiquement dans une lutte, on peut décider que les forces armées n'ont rien à faire dans la forêt de Sivens, qu'elles n'ont pas à privatiser un morceau de la forêt pour y garer leurs machines de destruction. On pourrait considérer ça ensemble, tous ensemble, quelles que soient nos méthodes ou nos positions, et décider d'aller reprendre ce morceau de forêt qui nous a été arraché. On pourrait y aller avec des grappins, arracher les grillages. Voilà, on pourrait faire ça tous ensemble. Mais cette question stratégique finalement de la violence, elle a été totalement occultée par une sorte de positionnement moral, par une sorte de considération morale assez vague d'ailleurs, que je ne saurais pas très bien définir, quant à ce que c'est la violence.
Aurélien Berland.
Je ne sais pas s'il faut dire une considération morale, une considération moralisante, au sens de la moraline, mais moi j'ai plutôt l'impression qu'en fait, la définition de l'État comme monopole de la violence légitime est intériorisé actuellement sans aucun recul critique par la plupart des gens. Là, il faut bien voir que nous sommes dans une situation où le pouvoir, donc, maintenant s'est avéré, a menti. Il détruit pour rien. Il n'a aucun motif qui justifie ce barrage. Et en plus, on tue pour ça. Mais pour beaucoup de gens, l'idée de sortir de cet impératif de non-violence qui nous est imposé par l'État et par le pouvoir, ça semble inconcevable. Inconcevable, même face à des autorités qui dépassent toutes les bornes, finalement. Et c'est ça qui est choquant, parce que la source de la violence qu'il y a eu à Sivens, elle est évidente. Du moins à mes yeux, la question c'est de savoir que faisait une telle armada, 250 gendarmes mobiles et CRS, la nuit du 25 au 26 octobre à Sivens, alors qu'ils n'avaient plus rien à défendre. La seule chose qu'ils avaient éventuellement à défendre, c'était des grillages. Ils étaient là pour protéger des grillages, s'ils étaient là pour protéger quoi que ce soit. En tous les cas, le préfet a dit qu'ils avaient posté des gendarmes pour protéger les manifestants. On peut se demander à quoi pouvaient bien servir ces gendarmes pour protéger des manifestants à une manifestation qui était censée se dérouler à 1,5 km du site. Et on peut se demander comment ces gens-là auraient pu les protéger, même s'ils l'avaient voulu, puisqu'ils étaient séparés des manifestants par des grillages et par un fossé rempli d'eau. Donc il n'y avait rien à défendre, il y avait juste, à mon sens, une seule chose. Dans la mesure où il n'y a plus aucun argument en faveur de barrage, le seul argument qui reste aux autorités, c'est de dénoncer ceux qui s'opposent. Et pour les dénoncer, on les dénonce comme violents, puisque c'est la morale de notre temps, la violence, c'est le monopole de l'État, personne n'a le droit d'être violent, mis à part l'État, qui serait légitime. Donc il leur fallait de la violence. Il leur fallait de la violence pour essayer de se justifier un tant soit peu face à l'opinion publique qui était en train de se retourner. Ils l'ont créé en postant 250 hommes à côté de 5000 militants. Ça a coûté la vie à Rémi.
Aujourd'hui, mercredi 5 novembre, au moment où nous travaillons sur cette émission, le projet n'est toujours pas clairement abandonné. Les responsabilités de la classe politique s'alourdissent. Vous pourrez télécharger cette émission et la précédente qui retrace l'historique du projet sur notre site franceculture.fr. Notre numéro de téléphone, c'est le 01 56 40 36 72. Notre adresse, Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi. Préparation, documentation, Laurence Chenepin, Anne Gouzon. Mixage, Bruno Mourlan. Réalisation, Jean-Christophe Francis. Bonne semaine à tous. Thank you.